Paris, livre 4, chapitre 1. Par ce doux matin des derniers jours de mars, lorsque Pierre quitta la petite maison de Neuilly avec son frère Guillaume pour l'accompagner à Montmartre, il eut un grand serrement de cœur en songeant qu'il y rentrerait seul et qu'il y retomberait dans son désastre et dans son néant. Il n'avait point dormi. Il était éperdu d'amertume, cachant sa peine, s'efforçant de sourire. En voyant le ciel si clair et si tendre, les deux frères avaient résolu d'aller à pied une longue promenade par les boulevards extérieurs. 9 heures sonnaient. Ce fut charmant, cette conduite ainsi faite au grand frère, qui s'égayait à la pensée de la bonne surprise qu'il réservait aux siens, comme au retour d'un voyage. Il ne les avait point avertis, il s'était contenté, depuis sa disparition, de leur écrire de temps à autre, pour leur donner de ses nouvelles. Et ses trois fils n'étaient pas venus le voir, par prudence, respectant son désir. Et la jeune fille qu'il devait épouser avait elle-même attendu sagement, tranquille et discrète. En haut, quand ils eurent gravi les pentes ensoleillées de Montmartre, Guillaume, qui avait une clef, entra simplement et doucement. Sur la place du Tertre, si provinciale, si calme, la petite maison semblait dormir dans une paix profonde. Et Pierre la retrouvait, telle qu'il l'avait vue lors de sa première, de son unique visite, silencieuse, souriante, baignée d'une infinie tendresse. C'était d'abord les trois couloirs qui traversaient le rez-de-chaussée pour s'ouvrir sur l'immense horizon de Paris. Puis, c'était le jardin, réduit à 2 pruniers et à 1 bouquet de lilas, égayé de feuilles maintenant. Et il y aperçut cette fois 3 bicyclettes appuyées contre les pruniers. Enfin, c'était le vaste atelier de travail, si joyeux et si recueilli, où vivait toute la famille et dont le large vitrail dominait l'océan des toitures. Guillaume était arrivé jusqu'à l'atelier sans rencontrer personne. Très amusé, il mit un doigt sur ses lèvres. « Attention, mon petit Pierre, tu vas voir !» Et, la porte ouverte sans bruit, ils restèrent un instant sur le seuil. Seuls les trois fils étaient là. Thomas, près de sa forge, manœuvrant une machine à percer, criblait de trous une petite plaque de cuivre. Dans l'autre coin, devant le vitrage, François et Antoine étaient assis aux 2 côtés de leur grande table, l'un enfoncé dans un livre, tandis que l'autre, le burin en main, terminait un bois. Toute une nappe joyeuse de soleil entrait, se jouait parmi l'extraordinaire pêle-mêle de la salle, où s'entassaient tant de besognes, tant d'outils divers, au milieu desquels la table à ouvrage des deux femmes était fleurie d'une grosse touffe de giroflées. Et, dans l'attention absorbée des trois jeunes gens, dans la religieuse paix, on n'entendait que le sifflement léger de la machine, à chaque trou que l'aîné perçait. Mais, bien que Guillaume sur le seuil n'eût pas bougé, il y eut un frisson, un brusque éveil. Les trois fils devinèrent, levèrent la tête en même temps. Et ils eurent le même cri. Un élan commun et unique les souleva, les jeta à son cou. « Le père !» Lui, heureux, les embrassa d'une solide étreinte. Ce fut tout. Il n'y eut ni attendrissement prolongé, ni paroles inutiles. Il semblait être sorti de la veille, revenir après une course qui l'aurait attardé. Il les regardait avec son sourire, tandis que 3, les regards dans les siens, souriaient aussi. Et cela disait toute l'affection, le don total, à jamais. « Entre donc, Pierre, serre-moi la main de ces gaillards !» Le prêtre, gêné, pris d'un singulier malaise, était resté près de la porte. Ses 3 neveux lui donnèrent de vigoureuses poignées de main. Puis, ne sachant que faire, se trouvant dépaysé, il finit par s'asseoir à l'écart, devant le vitrage. « Eh bien, mes petits, et mère grand, et Marie ?» La grand-mère venait de monter à sa chambre. Quant à la jeune fille, elle avait eu l'idée d'aller elle-même au marché. C'était une de ses joies. Elle prétendait qu'elle seule savait acheter des œufs frais et du beurre qui sentait la noisette. Puis, elle rapportait parfois une gourmandise ou des fleurs, ravie de se montrer si bonne ménagère. « Alors, tout va bien !» reprit Guillaume. « Vous êtes content? Le travail marche ?» Et il questionna chacun d'un mot, en homme qui rentre tout de suite dans ses habitudes quotidiennes. Thomas, dont la rude et bonne figure s'épanouissait, résuma en deux phrases ses recherches nouvelles pour le petit moteur. « Certain maintenant, disait-il, d'avoir trouvé. » François, enfoncé toujours dans la préparation de son examen, plaisanta, parla de l'énorme matière qu'il avait encore à emménager dans son cerveau. Antoine montra le bois qu'il terminait, sa petite amie Lise, la sœur du sculpteur Jean, lisant au soleil dans un jardin, toute une floraison de la créature attardée qu'il avait éveillée à l'intelligence par la tendresse. Et tout en causant, les trois frères avaient repris leur place, s'étaient remis au travail, naturellement, par la forte discipline qui avait fait du travail leur vie même. Guillaume, plein d'aise, donnait un coup d'œil à la besogne de chacun. « Ah, mes petits, ce que j'ai préparé, ce que j'ai mis au point moi aussi pendant que j'étais sur le dos, j'ai même pris pas mal de notes. » Nous sommes venus à pied, mais une voiture va m'apporter tout ça, avec les vêtements et le linge que mère grand m'a envoyé. Et quelle joie de retrouver tout ici, de reprendre avec vous la tâche commencée. Ah, je vais en abattre !» Déjà, il était dans son coin à lui. Entre la forge et le vitrage, il avait toute une large place réservée, son fourneau de chimiste, des vitrines et des planches chargées d'appareils, une longue table dont l'un des bouts lui servait de bureau. Et déjà, il prenait possession de cet univers. Ses regards s'étaient promenés, heureux de revoir tout en ordre. Ses mains furetaient, touchaient les objets avec la hâte de se remettre, ainsi que ses trois fils, à la besogne. Mais en haut du petit escalier qui conduisait aux chambres, Mère Grand venait de paraître, calme et grave, très droite, dans son éternelle robe noire. « C'est vous, Guillaume. Voulez-vous monter un instant ?» Il monta. Il comprit qu'elle désirait le renseigner, le rassurer, en lui disant tout de suite ce qu'elle avait à lui dire, sans témoin. C'était le secret redoutable entre eux. L'unique chose que ses fils ne savaient pas, la grande chose qui l'avait torturé d'angoisse après l'attentat, lorsqu'il l'avait cru en péril d'être su et divulgué. En haut, dans sa chambre, elle lui rendit des comptes, lui montra, près de son lit, intacte la cachette où étaient les cartouches de la poudre nouvelle et les plans du formidable engin destructeur. Il les y retrouvait, telles qu'il les y avait laissées. Il eût fallu pour les y toucher qu'on la tuât ou que la maison sautât avec elle. Très simplement, de son air de tranquille héroïsme, elle le remit en possession du terrible dépôt, en lui rendant la clé qu'il lui avait envoyée par Pierre le lendemain de sa blessure. « Vous n'étiez pas inquiet, je pense. » Il lui serra les deux mains avec tendresse et respect. « Inquiet, seulement que la police ne vint et ne vous brutalisa. Vous êtes la gardienne, ce serait vous qui achèveriez mon œuvre si je disparaissais. » Pendant ce temps, en bas, Pierre, toujours assis près du vitrage, sentait sa gêne croître. Certes, il n'y avait dans la maison qu'une sympathie affectueuse à son égard. Pourquoi donc lui semblait-il que les choses et les êtres eux-mêmes lui restaient hostiles, malgré leur bon vouloir de fraternité? et il se demandait ce qu'il allait devenir là, parmi ses travailleurs, tous soutenus par une foi, lui qui ne croyait plus à rien, qui ne faisait rien. La vue des trois frères, si ardents, si gais à la besogne, finissait par l'emplir d'une sorte d'irritation mauvaise. Mais l'arrivée de Marie l'acheva. Elle entra sans le voir, et si joyeuse et si débordante de vie, avec son panier de provisions au bras. On eût dit que la printanière matinée de soleil entrait avec elle, dans l'éclat de sa jeunesse, la taille souple, la poitrine large. Toute sa face rose, son nez fin, son grand front d'intelligence, son épaisse bouche de bonté, rayonnaient sous les lourds bandeaux de ses cheveux noirs. Et ses yeux bruns riaient d'une continuelle allégresse de santé et de force. « Ah, vous savez, vous trois » cria-t-elle, « j'en ai acheté des choses. Venez voir ça, je n'ai pas voulu déballer mon panier à la cuisine. » Il fallut absolument qu'ils vinssent se grouper autour du panier qu'elle avait posé sur une table. « D'abord du beurre, sentez un peu si celui-là sent la noisette. On le fait pour moi. Et puis des œufs, ils sont pondus d'hier, j'en réponds. Mais en voici un qui est du jour. Et puis des côtelettes, hein? Étonnantes mes côtelettes. Le boucher les soigne quand c'est moi. Et puis un fromage à la crème, mais à la vraie crème, une merveille. Et puis ça, c'est la surprise, la gourmandise. Des radis, de jolis petits radis roses, des radis en mars, quel luxe! Elle triomphait en bonne ménagère qui savait le prix des choses et qui avait suivi, au lycée Fénelon, tout un cours de cuisine et de ménage. Les trois frères qui s'égayaient avec elle durent la complimenter. Mais tout d'un coup, elle aperçut Pierre. « Comment, monsieur l'abbé, vous êtes là? Je vous demande pardon, je ne vous avais point vu. Et Guillaume, il va bien? Vous nous apportez de ses nouvelles ?»« Mais Pierre est revenu !» dit Thomas. « Il est là-haut avec Mère Grand. » Saisie, elle replaça toutes les provisions dans le panier. « Guillaume est revenu ? Guillaume est revenu et vous ne me le dites pas et vous me laissez tout déballer. Ah bien, je suis gentille, moi, à vous vanter mon beurre et mes œufs lorsque Guillaume est revenu. » Justement, celui-ci descendait de la chambre avec la grand-mère et elle courut gaiement, lui tendit les deux joues pour qu'il y posât deux gros baisers. Puis elle lui mit les mains sur les épaules, le regarda longuement, en lui disant d'une voix un peu tremblante, « Je suis contente, très contente de vous revoir, Guillaume. Maintenant, je puis le dire, j'ai cru vous perdre, j'ai été très inquiète et très malheureuse. » Et bien qu'elle continuât de rire, deux larmes parurent dans ses yeux, pendant que lui, très ému aussi, murmurait, en l'embrassant de nouveau, « Chère Marie, combien je suis heureux! Je vous retrouve, et si belle, si tendre toujours. » Pierre, qui les regardait, les trouva froids. Il s'était sans doute attendu à plus de larmes, à une étreinte plus passionnée entre deux fiancés qu'un accident avait séparés si longtemps, à la veille de leur mariage. La disproportion des âges aussi le blessa, bien que son frère lui parût solide et très jeune encore. Ce devait être cette jeune fille qui, décidément, ne lui plaisait guère. Elle était trop bien portante, trop calme. Depuis qu'elle se trouvait là, il sentait augmenter son malaise, son envie de s'en aller et de ne point revenir. Cette sensation de différer d'elle, d'être chez son frère un étranger, devenait en lui une véritable souffrance. Il se leva, voulut partir en prétextant une course dans Paris. « Comment, tu ne restes pas à déjeuner avec nous ?» s'écria Guillaume stupéfait. « Mais c'était convenu, tu ne vas pas me faire ce chagrin. Maintenant, petit frère, cette maison est la tienne. » Et tous se récriant, le suppliant avec une affection véritable, il fut bien forcé de rester et de reprendre sa chaise, où il retomba dans sa gêne silencieuse, regardant, écoutant cette famille qui était la sienne et qu'il sentait si loin de lui. 11 heures sonnaient à peine. Le travail continua, coupé de gaies causeries, lorsque l'une des deux bonnes fut venue chercher le panier de provisions. Marie lui recommanda de l'appeler pour les œufs à la coque, car elle se piquait d'avoir une recette merveilleuse, une façon de les cuire à point qui gardait le blanc en un lait crémeux. Et ce fut là l'occasion de quelques plaisanteries de François, qui la taquinait parfois sur toutes les belles choses qu'elle avait apprises au lycée Fénelon, où son père l'avait mise à 12 ans après la mort de sa mère. Mais elle répondait vaillamment, riait à son tour des heures que lui-même perdait à l'école normale, à propos de chinoiserie pédagogique. « Ah, les grands enfants !» dit-elle, sans lâcher son travail de broderie. « C'est drôle, vous êtes pourtant tous les trois très intelligents, très larges d'esprit, et ça vous offusque un peu, au fond, avouez-le, qu'une fille comme moi ait fait, comme vous autres garçons, ses études dans un lycée. » Querelle de sexe, question de rivalité et de concurrence, n'est-ce pas? Ils protestèrent, jurèrent qu'ils étaient pour la plus large instruction donnée aux filles. Elle le savait bien, et s'amusait à leur rendre leur taquinerie. « Non, non, sur cette affaire-là, vous êtes très en retard, mes enfants. Je n'ignore pas ce que dans la bourgeoisie bien pensante, on reproche au lycée de filles. D'abord, l'instruction y est absolument laïque, ce qui inquiète les familles qui croient, pour les filles, à la nécessité de l'instruction religieuse comme défense morale. Ensuite, l'instruction s'y démocratise. Les élèves y viennent de tous les mondes. La demoiselle de la dame du premier et celle de la concierge s'y rencontrent, y fraternisent, grâce aux bourses qu'on distribue très largement. Enfin, on s'y affranchit du foyer. Une place de plus en plus grande y est laissée à l'initiative. Et tous ces programmes très chargés, toute cette science qu'on exige aux examens, et certainement une émancipation de la jeune fille, une marche à la femme future, à la société future, que vous appelez cependant de tous vos voeux, n'est-ce pas, les enfants? « Mais sans doute !» cria François. « Mais nous sommes d'accord là-dessus !» Elle eut un joli geste et reprit tranquillement. « Je plaisante. Vous savez que je suis une simple, moi, et que je n'en demande pas tant que vous. Ah, les revendications, les droits de la femme, c'est bien clair, elle les a tous. Elle est l'égale de l'homme, autant que la nature y consent. Et l'unique affaire, la difficulté éternelle, est de s'entendre et de s'aimer. Ça ne m'empêche pas d'être très contente de savoir ce que je sais. Oh, sans pédanterie aucune, seulement parce que je m'imagine que cela m'a fait bien portante, d'aplomb dans la vie, au moral comme au physique. » Quand on éveillait ainsi ses souvenirs du lycée Fénelon, elle s'y plaisait, les évoquait avec une flamme où se retrouvait son ardeur à l'étude, sa turbulence aux récréations, des parties folles avec ses compagnes, les cheveux au vent. Sur les 5 lycées de filles ouverts à Paris, c'était le seul qui fut très fréquenté. Et encore n'y avait-il guère là, affrontant les préjugés et les préventions, que des filles de fonctionnaires, surtout des filles de professeurs, se destinant elles-mêmes au professorat. Celles-ci, en quittant le lycée, devaient ensuite aller conquérir leur diplôme définitif à l'école normale de Sèvres. Elles, malgré des études très brillantes, ne s'était senti aucun goût pour ce métier d'institutrice. Et plus tard, à la mort de son père, ruiné, endetté, lorsqu'elle avait pu craindre un instant de se trouver sans ressources sur le pavé de Paris, c'était Guillaume, en la prenant chez lui, qui n'avait pas voulu la laisser courir le cachet. Elle brodait, avec un art merveilleux. Elle s'obstinait à gagner quelque argent, pour n'en recevoir de personne. Souriant, Guillaume avait écouté, sans intervenir. Il s'était mis à l'aimer, séduit surtout par sa franchise, sa droiture, ce bel équilibre qui faisait son charme honnête et fort. Elle savait tout, mais si elle n'avait plus la poésie de la jeune fille ignorante et bêlante, elle y gagnait une réelle probité de cœur et d'esprit, une parfaite innocence au grand jour, sans réserve d'hypocrisie, sans perversité cachée, aiguillonnée par le mystère. Et, dans sa belle santé calme, elle avait gardé une telle pureté d'enfance que, malgré ses 26 ans sonnés, tout le sang de ses veines montait encore parfois à ses joues, en ces ardentes rougeurs dont elle était si désespérée. « Chère Marie, dit Guillaume, vous voyez bien que les enfants s'amusent, et c'est vous qui avez raison. Vos œufs à la coque sont les meilleurs du monde. » Il avait dit cela avec une affection si tendre que la jeune fille, sans autre raison, devint pourpre. Elle le sentit, rougit davantage. Et comme les trois garçons la regardaient malicieusement, elle se fâcha contre elle-même. Puis, se tournant vers Pierre, « Hein, monsieur l'abbé, est-ce ridicule, une vieille fille, rougir ainsi? Ne dirait-on pas que j'ai commis un crime ? Et vous savez, c'est pour arriver à me faire rougir qu'ils me taquinent, ces enfants. J'ai beau ne pas vouloir, je ne sais pas d'où ça monte. C'est plus fort que moi. » Mère Grand, levant les yeux de la chemise qu'elle raccommodait, sans lunettes, dit simplement « Va, ma chère, c'est très bien. C'est ton cœur qui monte à tes joues pour qu'on le voie. » L'heure du déjeuner approchait. On décida qu'on mettrait la table dans l'atelier, ce qui arrivait parfois lorsqu'on avait un convive. Et ce fut vraiment exquis. Dans le clair soleil, cette table dressée avec son linge blanc, ce déjeuner si simple et si fraternel. Ces œufs que la jeune fille avait rapportés elle-même de la cuisine sous une serviette furent trouvés admirables. On fit également un succès au radis et au beurre, puis, après les côtelettes, il n'y eut pour dessert que le fromage à la crème. Mais un fromage comme personne n'en avait jamais mangé. Et Paris était là, qui s'étendait sans bornes d'un bout à l'autre de l'horizon, dans son grondement formidable. Pierre avait fait effort pour s'égayer, mais il était bientôt retombé dans son silence. Guillaume, qui venait de voir les trois bicyclettes dehors, questionnait Marie, voulait savoir jusqu'où elle était allée le matin. François et Antoine l'avaient accompagnée du côté d'Orgemont. L'ennui, c'était qu'il fallait ensuite remonter les bicyclettes sur la butte. Elle en riait, disait que ça la faisait bien dormir, sans vilain rêve. La bicyclette, pour elle, avait toutes sortes de vertus. Et comme le prêtre la regardait, plein d'effarement, elle promit de lui expliquer un jour ses idées là-dessus. Le pis fut que, dès lors, la bicyclette occupa toute la fin du déjeuner. Thomas s'étendit sur les derniers perfectionnements apportés aux machines qu'on fabriquait à l'usine Grand Didier. Lui-même cherchait le fameux appareil tant désiré qui permettrait, en marche, de changer la multiplication d'une façon simple et pratique. Et ensuite, les trois jeunes gens et la jeune fille ne parlèrent plus que des promenades faites, que des promenades à faire, débordant d'exubérance de toute une joie d'écoliers échappés, avides de plein air. Mère Grand, qui présidait les repas avec une sérénité de reine-mère, s'était penchée à l'oreille de Guillaume, assis près d'elle. Et Pierre comprit qu'elle lui parlait de son mariage, dont la date fixée à la fin d'avril allait forcément être reculée. Ce mariage, si raisonnable, qui semblait devoir assurer le bonheur de toute la maison, était un peu son œuvre, ainsi que celle des trois fils. Car jamais le père n'aurait cédé à son cœur si la femme qui l'installait dans la famille ne s'y était pas trouvée déjà acceptée, aimée. Et maintenant, la dernière semaine de juin, pour toutes sortes de raisons, paraissait être une bonne date. Marie entendit, se tourna gaiement. « N'est-ce pas, ma chère ?» demanda Mère Grand. « La fin de juin, c'est très bien !» Pierre s'attendait à voir une rougeur intense envahir les joues de la jeune fille. Mais elle resta très calme. Elle avait pour Guillaume une affection profonde, une reconnaissance d'une infinie tendresse, certaine d'ailleurs qu'en l'épousant, elle faisait un acte très sage et très bon, pour elle et pour les autres. « Parfaitement, la fin de juin, » répéta-t-elle. « C'est très bien. » Les fils qui avaient compris se contentèrent de hocher la tête pour donner, eux aussi, leur assentiment.